Question d'islam par Al-Benshir. Aujourd'hui, nous parlons de nouvelles théologies, en contexte islamique, et j'ai beaucoup de plaisir de recevoir Constance Armengeon. Bonjour.
Bonjour monsieur, c'est toujours un honneur et une joie de se rendre à votre invitation et je vous en remercie beaucoup.
C'est moi qui suis touché par votre acceptation d'être parmi nous. Nos auditeurs vous en sauront gré, ça c'est sûr. Vous êtes maître de conférence à l'École pratique des hautes études, vous êtes historienne de l'islam contemporain et vous êtes auteur de nombreux ouvrages ayant trait aux doctrines de cet islam contemporain. Et là, vous vous êtes intéressé comme chercheur, chercheuse, je féminise rarement les titres, à cette idée d'une refondation de la pensée théologique islamique, de cette refonte du savoir de la pensée religieuse en islam, de sa reconstruction, si je devais parler comme Mohamed Iqbal. C'est que beaucoup de ceux qui savent et de ceux qui savent un peu moins se posent la question, y en a-t-il vraiment une nouvelle théologie en islam? Et je vous pose donc la question, je me fais leur relais.
Je vous remercie. Il est tout à fait remarquable que cette expression ait été employée par des auteurs sunnites égyptiens et iraniens en une parfaite concomitance.
Sans qu'ils se concertent mutuellement.
Sans aucune concertation. Autrement dit, ça n'est pas un chercheur français qui projette un désir de transformation de l'islam sur la réalité de l'islam, c'est au contraire, comme d'ailleurs ça devrait être toujours la règle, un historien, en l'occurrence une historienne, qui découvre dans des sources primaires de l'islam l'emploi concomitant en un moment précis, à la fin des années 1980, de cette expression, donc, qui a deux versions, l'une en persan, Kalam-e Jadid, dont le philosophe Abdelkarim Sorouch a usé dans une série d'articles et conjointement dans des enseignements dans une université de Téhéran. Donc la série d'articles a commencé à être publiée en 1988 et deux ans plus tard, le philosophe égyptien sunnite Hassan Hanafi employait à son tour cette expression en arabe, Kalam Jadid, constatant dans une perspective on ne peut plus concordante avec celle de Sorouch, philosophe donc iranien chiite, constatant l'historicité de la théologie et s'interrogeant sur les formes et les fonctions possibles d'une nouvelle théologie en islam.
Alors d'emblée, essayons de cerner ensemble, si vous voulez bien, la sémantique. Kalam, aussi bien en persan, vous l'avez dit, qu'en arabe, renvoie étymologiquement à parole, mais là sous-entendu parole sur Dieu, c'est ce qui renvoie justement à la théologie. Mais il se trouve aussi que certains ont voulu parler de lahout ou ilahiyat. Et ils reviennent toujours à cette notion de kalam qui a été consacrée dans l'histoire. Et vous-même venez de dire à l'instant que la théologie islamique est avant tout inscrite, s'articule dans l'histoire.
Exactement. Alors, la lahout, en général, est employée par les théologiens chrétiens arabes. À ma connaissance, qui est très limitée, les auteurs musulmans, pour désigner la science du discours sur Dieu, qui est selon l'étymologie, théologie, n'emploient pas cette expression de lahout, mais ils emploient, comme vous le rappelez à l'instant, l'expression aussi de ilahiyat dans les madrasas. Dans la longue durée, on employait ilahiyat. Mais comme vous disiez à l'instant, kalam est aussi un terme consacré depuis la formation même de cette discipline de la théologie en islam. Et pour s'inscrire explicitement dans cette histoire de longue durée, puisqu'ils analysent aussi la trajectoire historique de la théologie, ils emploient cette même expression.
Et donc, nous n'allons pas rendre les choses fastidieuses pour nos auditeurs. Et les mutakallimoun, donc, sont ceux qui portent cette parole, les loquentes, si je devais parler latin. Et ça nous renvoie encore une fois à cette notion de kalam jadid, donc théologie nouvelle, dans un cas comme dans l'autre. C'est pour dire que aussi bien le contexte chiite que le contexte sunnite par des philosophes, ceux qui ont une formation philosophique, Abdul Karim Sorosh et Hassan Hanafi, ont utilisé la même expression.
C'est en soi tout à fait remarquable et cela incite à cultiver toujours davantage l'histoire comparative des deux branches principales de l'islam qui sont le sunnisme et le chiisme du haut des cimes, en effet. Et comme, je dirais, la comparaison par excellence est un instrument pour déceler ce qui est analogue et ce qui diffère, bien entendu. Mais il y a quelque chose de frappant qui commence déjà par la concomitance de ces interrogations sur les formes possibles d'une nouvelle théologie avec la même expression, dont le sens varie légèrement, puisque en arabe, jadid signifie principalement « nouveau », en persan, jadid signifie à la fois nouveau et moderne. Ça ne marque pas là une différence fondamentale.
Oui, Constance Hermingeon, il y a aussi cette idée que parmi les observateurs, d'aucuns disent oui, mais où sont les équivalents, les pendants, les homologues des théologiens chrétiens, qu'ils fussent protestants ou catholiques, hein, les Karl Barth, les Karl Rahner, les Hans Urs von Balthasar, les Paul Tillich, les Gustav Thies, par exemple. On n'en trouve pas parmi les musulmans, et pourtant, il y en a quelques-uns.
Alors, votre question est tout à fait remarquable de précision, parce que, chronologiquement, ces interrogations donc explicites sur les formes et les fonctions et le contenu possible d'une nouvelle théologie sont exprimés par donc deux philosophes, Sorosh et Hanafi. Sans employer cette expression, Nasr Hamid Abou Zayd, autre géant de la pensée islamique contemporaine, égyptien sunnite, avait engagé à la fin des années 1980 une critique du discours religieux et une critique de la théologie, de l'héritage théologique sunnite. Puis, dès le début des années 1990, ces philosophes de statut laïque, au sens strict du terme, ont été rejoints en Iran par des théologiens de métier. Et c'est là qu'apparaît la première différence de grande portée, me semble-t-il, entre l'islam sunnite et l'islam chiite. Il faut toutefois être plus précis parce que dans les années 90 également, certains théologiens de métier turcs qui se désignent eux-mêmes par une expression de l'école d'Ankara, en référence à la faculté de théologie d'Ankara fondée en 1949, ces théologiens donc de métier turcs ont exprimé des préoccupations sur l'exégèse coranique, sur l'historicité du texte coranique lui-même, qui concorde avec celle des philosophes égyptiens sunnites et des philosophes et théologiens chiites iraniens. Cependant, la différence entre les théologiens turcs, d'une part, et les philosophes égyptiens et philosophes et théologiens iraniens consiste dans le fait que ces théologiens turcs sont en fait principalement des spécialistes d'exégèse et qu'ils se sont davantage donc concentrés sur les méthodes de l'exégèse coranique plutôt que sur cette discipline qui, vous le savez, bien sûr, est une autre discipline parmi les savoirs religieux islamiques classiques et qui perdurent jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire l'exégèse coranique, le tafsir, est une discipline, tandis que le kalam en est une autre.
Constance Hermingeon, avant de poursuivre, j'ai été frappé tout à l'heure lorsque vous parliez de l'historien qui n'a pas à projeter en quelque sorte ses désirs sur l'objet de ses études. Il y a là une nuance entre ce que pourrait faire le sociologue et ce que fait l'historien. Et j'ai lu avec intérêt dans votre ouvrage l'emprunt que vous avez fait à Fernand Braudel quand il fait la distinction entre la sociologie et l'histoire.
Je vous remercie beaucoup. Je crois que cette distinction est tout à fait capitale. Je me suis confrontée à la sociologie, mais ça n'est pas la discipline dans laquelle je travaille, tout en étant très éclairée par ses apports. Il me semble tout de même que si l'on entend une pratique scientifique le plus rigoureuse possible, le sociologue lui-même devrait s'abstenir de projeter ses désirs sur la réalité et distinguer toujours la réalité qu'il s'efforce de comprendre avec sa méthode propre et d'autre part ses désirs de changer cette réalité.
Oui, parce que la difficulté avec le sociologue, bien que l'objet d'étude soit contingent, soit il considère l'événement précis quasi instantané dans le temps, soit il est atemporel ou anhistorique. Il n'y a pas une approche d'une enquête, si je puis dire, ou d'une investigation historienne.
Non, en effet. En effet, nous n'avons pas le même rapport au temps. Et il me semble que cette réflexion et cette délimitation entre le rapport au temps des historiens et celui des sociologues a été magistralement formulée par Braudel.
Oui. Vous trouveriez-vous dans une des définitions de l'histoire qui serait une anthropologie du passé avec un regard critique sur les systèmes de pensée et de culture, mais aussi une archéologie du temps présent?
Alors, l'anthropologie est une autre immense discipline dans laquelle je n'oserais pas m'aventurer, tout en cultivant avec grand bonheur un dialogue, ne serait-ce qu'à l'École pratique des hautes études, où nous avons de nombreux anthropologues. Mais, bien entendu, donc, l'histoire, comme l'ont fondé déjà il y a plusieurs décennies, l'histoire du temps présent, est une forme d'histoire.
Bien. Alors, revenons à notre nouvelle théologie. Et j'ai vu que vous avez fait une approche critique, et si vous me permettez de dire juste, sur ce n'est pas qu'une réforme. D'aucuns, s'ils étaient plus sévères, auraient dit ce n'est pas qu'une énième réformette. De toute façon, ce n'est pas une réforme avec une raison religieuse dévote ou fermée, c'est tout simplement une approche critique philosophique dans un cas et philosophico-théologique dans l'autre, si je mets de côté l'école d'Ankara.
C'est exact. Une fois encore, ce sont les auteurs qui sont des géants qui doivent être étudiés de près. Or, ce qui a attiré mon attention et qui m'a incité à proposer une critique de l'historiographie de l'islam contemporain au prisme de la notion de réforme. Ce deux faits principaux. Le premier est que réforme est un terme extrêmement général qui ne permet pas de discerner la visée, le contenu et les effets des innovations, quelles qu'elles soient, d'un penseur ou d'un grand acteur. Autrement dit, du point de vue analytique, ce terme de réforme est totalement insuffisant. Et en outre, les auteurs eux-mêmes ont commencé par faire des inventaires critiques de leur héritage de longue durée et des réformes menées dans différents domaines des institutions des savoirs et des sociétés depuis le début du 19e siècle. Autrement dit, une fois encore, c'est l'acuité des auteurs musulmans eux-mêmes qui s'interrogent sur et qui œuvrent, dans certains cas, à l'élaboration d'une nouvelle théologie qui requiert une vigilance et une utilisation prudente et toujours réfléchie des termes. C'est en réalité une lapalissade, mais il faut les suivre. Or, à la fin des années 1980, je dirais le premier moment dans ce moment de la nouvelle théologie consiste à conjoindre un inventaire critique des réformes et même, dans certains cas, une interrogation sur la signification du terme de réforme en matière religieuse. Et à cet égard, l'acuité exprimée parfois, d'ailleurs avec ironie, par certains philosophes ou théologiens iraniens est saisissante. Mostafa Malekian, penseur, philosophe de la religion, discerne trois plans de la religion et avec autant de réformes possibles correspondantes. Autrement dit, il oblige à s'interroger sur le plan que l'on envisage. Il n'y a donc pas une réforme de la religion, il pourrait y avoir des réformes sur ce plan, sur un autre ou sur un troisième.
Oui, il y a aussi cette idée qui m'avait frappé que même au sein d'une approche réformiste, les choses s'affadissent, l'élan premier s'estompe, l'enthousiasme n'y est plus, de génération en génération, disons de maître à disciple. Et vous avez pris l'exemple de Jamaluddin Afrani, de son disciple Mohamed Abdou, et de l'autre disciple Rachid Reda, et en disant que le premier paraît comme un réformateur, le deuxième, certes, il est dans les traces ou dans les pas de son maître, le troisième, de fait, devient conservateur.
En réalité, ceci est une caractérisation d'Henri Laoust, à laquelle je ne souscris pas du tout. Ah. Je ne souscris pas du tout à cette caractérisation pour deux raisons. La première est que il faut distinguer ces trois et ne pas les considérer dans une lignée. À juste titre, Catherine Mayer-Jaouen parlait avec ironie d'une trinité du réformisme pour en dénoncer cette appréhension englobante. Il faut les distinguer et il faut considérer les intentions et les œuvres respectives de ces trois auteurs. Jamaluddin Assadabadi, qui était persan, n'a pas engagé de critique de son héritage théologique. Il a laissé des écrits extrêmement ambivalents sur sa propre croyance. Il est en tout cas certain, comme l'ont montré il y a déjà 50 ans deux historiennes, Nikki Keddi et Homa Pangdaman, qui n'a pas œuvré à une réforme des savoirs religieux en islam et a fortiori de la théologie. Mohamed Abdou était un théologien institutionnel, puisqu'il était un nasrarien.
Et même recteur de l'université
à Nasr. Et moufti d'Égypte.
A fortiori.
Voilà. Mohamed Abdou a été innovant en matière de pensée juridique. C'est certain. Mais justement, notre but est de distinguer les disciplines. Sinon, on ne comprend rien. C'est une question, je crois, de bon sens, de méthode. Mohamed Abdou est incontestablement un innovateur dans le domaine du fiqh et peut-être plus encore dans le domaine des usul al-fiqh, puisqu'il est l'un des penseurs sunnites qui a introduit la notion tout à fait fondamentale de loi naturelle.
Alors, usul al-fiqh, pour nos auditeurs, le droit savant,
quand les fondements du droit.
Les fondements du droit.
Qui est une discipline qui n'a pas d'équivalent dans les autres traditions, qui est aux confins de la méthodologie du droit et d'une forme d'épistémologie du droit. Enfin, Rachid Rida, qui a aussi été inspiré par les innovations de son maître Abdou dans le domaine juridique, a visé à réaffirmer une certaine vision de la théologie, mais en aucun cas il ne s'est interrogé sur... il a critiqué son héritage. Donc ça, c'est un plan fondamental. La deuxième raison pour laquelle je critique
l'approche
de Laouste, qui a été très très influente, c'est qu'il illustre par excellence une attitude qui me paraît étrangère à celle que nous devrions avoir comme chercheurs en général et historiens notamment, c'est-à-dire qu'il projette une volonté de transformation sur les auteurs musulmans en disant explicitement que le réformisme est un modernisme de bon aloi. Mais en aucun cas il ne m'appartient de vouloir et de juger du modernisme de bon aloi des auteurs musulmans ou de quelques auteurs.
J'étudie. Ni de mauvais aloi.
Ni de mauvais aloi, exactement. Ça n'est pas mon propos.
Alors, nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam. Aujourd'hui, nous parlons de nouvelle théologie, de refondation de la pensée théologique islamique, de refonte du savoir religieux en contexte islamique, aussi bien en contexte sunnite qu'en contexte chiite, avec Constance Arminjon, maître de conférence à l'École pratique des hautes études, historienne de l'islam contemporain, et auteur de nombreux ouvrages très denses et très éclairants, édifiants, sur les doctrines, justement, de cet islam contemporain. Chère Constance Arminjon, pour cette deuxième partie de l'émission, qui sera suivie par une autre qui traitera, cette fois-ci, je le dis pour nos amis auditeurs, le cœur, l'objet même de cette nouvelle théologie. Pour l'instant, nous parlons des protagonistes et d'une présentation générale. Nous parlons de scénographie. Comme sous-titre, vous parlez de polyphonie. À un moment donné, j'ai décelé quelque chose qui a trait à la musique baroque, au-dessus de la ligne de basse continue, qui serait peut-être commune à l'ensemble, il y a des spécificités selon telle ou telle école, y compris peut-être l'école d'Ankara.
Merci beaucoup d'avoir été sensible à cette métaphore qui m'inspire depuis mon travail de thèse publié dans mon premier livre « Chiisme et État ». La polyphonie est une métaphore, donc bien sûr musicale, qui me semblait d'abord illustrer au mieux l'irréductible pluralité synchronique des doctrines chiites de l'autorité qui se sont déployées des années 1950 jusqu'à aujourd'hui et plus généralement cette irréductible pluralité, je dirais, est observable à toute époque. Quand j'ai commencé à travailler sur la théologie fondamentale et la dogmatique, après avoir travaillé sur la théologie politique et le droit, il m'est apparu que cette métaphore était on ne peut plus propice pour condenser les temporalités différentes des sciences religieuses islamiques. Autrement dit, si l'on se concentre sur l'histoire contemporaine, qui, d'après l'historiographie au sens conventionnel du terme, commence à la fin du XVIIIe siècle et se poursuit jusqu'à aujourd'hui, chaque discipline du savoir islamique a une trajectoire historique qui peut être figurée par une ligne au sens musical du terme. Et l'on voit très bien les rythmes différents. La théologie fondamentale et dogmatique se perpétuant selon le rythme le plus lent, avec des accords, au sens musical du terme, encore une fois, périodiques entre les lignes. Et c'est ce qui s'est produit à la fin des années 1980 et surtout dans les années 1990, la dernière décennie du XXe siècle est une décennie capitale dans l'histoire de la pensée islamique, puisque on voit, autre métaphore, une métaphore géographique qui est très belle aussi pour l'historien, c'est-à-dire la métaphore des fleuves et des confluents. Il y a un confluent à la fin des années 80 et surtout dans les années 1990, moment où dans l'histoire des institutions académiques, il y a les chercheurs, les savants musulmans préservent leur discipline classique, mais ont aussi introduit dans certaines universités de nouvelles disciplines comme l'histoire, certaines sciences sociales et la philosophie, entre guillemets, occidentale, c'est-à-dire principalement des auteurs qui sont européens, la période moderne et contemporaine. En matière juridique, il y a des réflexions, des inventaires et des comparaisons critiques entre l'héritage islamique et l'héritage des droits de l'homme universels tels qu'ils ont été formulés dans la Déclaration universelle de l'ONU de 1948. Et il y a une corrélation très remarquable, bien entendu, entre la réflexion juridique et la réflexion proprement théologique. Et c'est justement à la fin des années 80 que l'on voit à la fois la corrélation structurelle et structurante entre le droit, les disciplines juridiques islamiques et la théologie, et dans le même temps, un épanouissement de chacune de ces disciplines.
Constance Hermingeon, je ne voulais pas vous interrompre dans votre développement que je suis avec beaucoup d'intérêt. Autant je comprends la dogmatique, la théologie fondamentale, le droit, autant la théologie politique, me semble-t-il, n'a pas été désignée comme telle. Elle est en filigrane un peu partout. Et d'aucuns disent qu'il y avait davantage à travers l'histoire une tradition de miroir des princes en ce qui concerne les questions relatives au gouvernement qu'une véritable théologie politique définie comme telle.
Il me semble, encore une fois, que nous pouvons parler aussi de polyphonie, puisque la tradition de Miroir des Princes, qui est une très belle tradition, était à la fois parallèle et consonante, parfois, ou dissonante, à d'autres fois, avec la théologie politique. Au sens strict, vous avez tout à fait raison, la théologie politique n'est pas une discipline distincte. Et certains des auteurs qui ont contribué substantiellement à cette théologie politique, qu'il s'agisse de l'islam sunnite, comme Abdelrazik, auteur de L'islam et les fondements du pouvoir en 1925, ou encore de Abdelrazak Sanhouri, qui a œuvré aussi en matière de théologie politique en français dans le cadre de sa thèse soutenue à Lyon en 1926, ont rappelé que dans l'islam sunnite, la théologie politique était abordée dans le cadre de la théologie fondamentale. Mais, bien entendu, aussi dans le cadre du fiqh. De la même manière,
qui est le fameux droit savant.
Le droit savant. Dans l'islam chiite, il en allait de même. Et si l'on se réfère à l'une des premières tentatives d'historisation de la théologie politique chiite qui a été faite par Mohsen Khadivar, le cheikh Mohsen Khadivar, né en 1959, qui a, en 1998, écrit le deuxième volume de son triptyque intitulé « La pensée politique en islam », Andishaye Siyasi dar Islam en persan. Ce deuxième volet donc du triptyque qui est intitulé Les théories de l'État dans le fiqh chiite Nazariyehoye Dolat dar fiqh chiite. Donc les théories de l'État dans le fiqh chiite, c'est-à-dire dans le droit savant chiite, discipline donc dans laquelle a été pensé l'État, son statut et son statut au regard de la théologie et du droit.
Alors vous avez dit que ce qui caractérise ces nouveaux penseurs, ces théologiens en tout cas, philosophes d'un côté, philosophes et théologiens de l'autre, c'est le contexte chiite. On a adjoint, si je puis dire, des disciplines modernes ou telle que dans la batterie de ces disciplines, il y a aussi la philosophie, dont la critique kantienne et surtout la philosophie de Wittgenstein. Quel est l'apport nouveau, si on introduit la pensée de Ludwig Wittgenstein, par exemple?
La référence à Wittgenstein est plus récente et elle n'est pas commune à tous les auteurs qu'il faut, encore une fois, qui, à leur tour, représente une forme de polyphonie, puisque ça se démultiplie sans cesse. Deux auteurs, principalement, se réfèrent à Wittgenstein. Il s'agit de Mohammad Mojtahed Echabestari, qui est jusqu'à présent le théologien qui a été le seul à livrer un projet quasi complet pour refonder la théologie en islam, suivant ses propres termes, qui, dans ses dernières œuvres, en particulier à partir de sa série d'articles sur le texte coranique intitulé Qira'at Nabavi Az-Jahan, que l'on peut traduire par lecture prophétique du monde, se réfère à Wittgenstein et à la philosophie du langage de Wittgenstein. Malekian, le philosophe Mustafa Malekian, qui d'abord a été formé par l'ayatollah Mesbah Yazdi, qui était un des plus virulents apologistes de la Velayat-e Faqih, donc la doctrine fondatrice de la République islamique, et qui s'est donc Malekian s'est ensuite démarqué progressivement de l'ayatollah Mesbah Yazdi, mort en 2021. Malekian a d'abord été un des responsables de la revue fondée à Rome en 1994 pour observer, en même temps qu'œuvrer à l'élaboration d'une nouvelle théologie, c'est la devise express donc de cette revue Naqd va Nazar. Et ensuite, Malekian s'est encore démarqué de cette approche théologienne pour se situer plus précisément sur le terrain de la philosophie. Et là encore, dans des entretiens qui remontent à la fin des années 1990 et au début des années 2000, Malekian salue l'apport de la philosophie analytique et notamment de Wittgenstein à la réflexion sur la religion en islam, en disant que la démarche analytique de la philosophie analytique et de Wittgenstein en particulier est très propice pour aider à discerner ce dont on peut parler et ce dont on ne peut pas parler. Et il continue en ajoutant que il se situe dans le sillage du point de vue méthodologique de Wittgenstein, tout en ayant une conception davantage existentialiste en matière de doctrine.
Et ce dont on ne peut pas parler, il faut le taire, dit Wittgenstein, si j'ai bien compris et si la traduction est bonne, parce qu'il y a tout un débat sur cet aphorisme, le dernier du Tractatus Logico-Philosophicus. Et d'aucuns avaient dit, c'est comme si quelqu'un recommandait aux gens de monter, il est monté sur un toit d'une maison, puis il a jeté l'échelle, parce que ce dont il a parlé dans tout le traités logico-philosophicus étaient aussi quelquefois des choses dont on ne pouvait pas parler véritablement. Mais indépendamment de cette anecdote, moi je suis frappé par, et nous y sommes encore, par la profondeur de la pensée de ces acteurs, de ces protagonistes. Vous nous avez cité quelques-uns dans l'obédience chiite. Revenons, si vous voulez bien, Constance Arminjean, à l'école d'Ankara. Pourquoi je vous dis ça? L'école d'Ankara, en gros, m'avait fait penser, mais sans aucune autre comparaison que l'idée, au cercle de Vienne de l'entre-deux-guerres, puisque vous avez parlé de la philosophie du langage, et cela m'avait renvoyé un peu au néo-positivisme autour de Wittgenstein, Carnap, Maurice Schlick, etc. Mais les théologiens de l'école d'Ankara, il y en a quatre principalement, trois, en gros, dans une même famille de pensée, un quatrième peut-être un peu à part, mais si vous nous les présentiez, fût-ce d'une manière sommaire, ça serait très bien.
Ces théologiens, donc sont théologiens de métier au sens institutionnel du terme, sont avant tout donc des exégètes. Leur principale préoccupation est donc de proposer une exégèse du Coran qui serait, selon eux, pertinente pour l'époque contemporaine. Ce ne sont pas des philosophes. Ils ont encore une approche très notablement apologétique de leur tradition et, corrélativement donc, une utilisation circonspecte voire défensive de certains philosophes européens, en particulier de Gadamer. Gadamer est, je crois, l'auteur qui a le plus nourri tous ces auteurs, qu'ils soient turcs.
En y répondant.
Alors justement, en s'en nourrissant et en le transposant de manière très différente. Les auteurs turcs d'Ankara, qui ne sont plus tous d'ailleurs à Ankara, puisque Ömer Özsoy est à présent en Allemagne, ont plutôt souhaité contester Gadamer de manière morcelée. Malheureusement, comme je ne lis pas le turc et qu'il y a très peu de travaux sur les développements de la Turquie, je ne peux pas être aussi précise que je ne peux l'être pour le monde arabe et le monde qui s'exprime en persan. Mais il est tout de même avéré, notamment par Félix Körner, qui a travaillé sur les auteurs d'Ankara, donc qu'il y a de la défiance à l'égard des philosophes européens et notamment de Gadamer. Alors qu'au contraire, Nasr Hamid Abou Zeid, qui a découvert Gadamer alors qu'il était il étudiait aux États-Unis, et Chabestari, qui a découvert, pourrait-on dire, à la source Gadamer, c'est-à-dire lors de la décennie qu'il a passée en Allemagne dans les années 1970, en sa qualité de recteur du centre islamique de Hambourg.
L'un sunnite, l'autre chiite,
en effet, se sont nourris avec admiration fervente de Gadamer. Et ont cherché à utiliser l'herméneutique de Gadamer pour proposer une critique herméneutique des savoirs islamiques. Donc il y a une différence tout de même très nette entre une approche défiante et limitée de Gadamer qui a été faite en Turquie, et d'autre part, une tentative, dans le cas de Chabestari, explicite, d'intégrer l'herméneutique, notamment dans sa version gadamérienne, pour suivre l'exemple, en quelque sorte, de Gadamer, mais en faire un usage spécifiquement islamique, qui consiste donc en une herméneutique des savoirs islamiques, avec, là encore, des analogies admirables entre cet auteur sunnite égyptien, Abou Zeid, et ce théologien chiite iranien, Shabestari, analogie remarquable puisque leur critique épistémologique sont les plus exhaustives parmi celles qui ont été livrées en islam contemporain, elles convergent très fortement et dans le même temps diffèrent puisque Abou Zeid, n'ayant pas la même formation, étant aussi un immense spécialiste de la littérature, a proposé une herméneutique de la culture, tandis que Shabestari s'est concentré sur une critique herméneutique des savoirs religieux et des institutions.
France Culture, Question d'islam, Khaleb Bencher.
Aujourd'hui, nous parlons de théologie, de nouvelle théologie, pour une histoire polyphonique, justement, de cette refondation de la pensée théologique islamique, avec Constance Hermingeon, maître de conférence à l'École pratique des hautes études, historienne de l'islam contemporain et auteur de nombreux ouvrages ayant trait aux doctrines de cet islam contemporain. Pour cette dernière partie, et toujours pour fixer, si j'ose dire, la scénographie de cette nouvelle théologie avec ses acteurs, ses protagonistes, restons dans la partie sunnite, si vous voulez bien, Constance Hermingeon, et parlons de, vous avez évoqué quelquefois Nasr Hamed Abou Zeid, mais parlons un peu de son aîné Hassan Hanafi, qui est une personnalité tout aussi dense et riche. Après, on parlera de lui. Et comme vous m'avez promis que vous reviendriez, on parlera par la suite du sujet lui-même et de l'objet de cette refondation de la pensée théologique, dont le passage, d'ailleurs je le dis comme ça, en informant nos auditeurs, entre autres de l'apologie ou d'une sorte de théologie apologétique défensive, d'aucuns l'avaient même qualifié de mièvre, vers quelque chose, vers une herméneutique critique du savoir religieux. Alors, Hassan Hanafi. Jusqu'à présent, nous n'avons pas donné les trajectoires de vie. Hassan Hanafi est né en 1935, mort en 2021, donc il nous a quittés il n'y a pas longtemps. Qu'est-il ce grand personnage?
Cette question est très intéressante et il est plus qu'intéressant, il est indispensable d'étudier conjointement ces deux figures principales de la nouvelle théologie en Égypte, majoritairement sunnite. Certes, vous l'avez rappelé, Abou Zeid a été d'abord l'élève de Hanafi. Il s'en est ensuite démarqué avec une ironie mordante pour critiquer le projet de Hassan Hanafi. Il faut les étudier sans cesse ensemble, parce qu'ils nous permettent et surtout ils nous obligent à considérer que la nouvelle théologie n'est pas une. Autrement dit, la nouvelle théologie a d'abord été une formule employée sur un ton interrogatif, très clairement. Que pourrait être une nouvelle théologie? Après 3 décennies, puisque ces interrogations ont été lancées à la fin des années 1980, nous sommes en 2022, on est passé de ces interrogations à des critiques des savoirs islamiques, et même dans certains cas, à des projets plus ou moins consistants de nouvelles théologies. Et là donc, Hanafi, tout en s'inscrivant totalement dans ce moment de la nouvelle théologie, qui encore une fois, il faut le rappeler, n'a pas recouvert, loin s'en faut, la ligne majeure de base continue qui reste apologétique. Et apologétique, donc, illustrée par Al-Azhar, par les autres savants religieux sunnites en général, et par les grandes figures de la Hosée, de Qom et de Najaf en Irak. Hanafi reste un apologiste. Et c'est ça qui est tout à fait remarquable. Et là, je suis heureuse de saluer ma dette envers Frédéric Worms, qui, dans son histoire de la philosophie en France, définit ce qu'il appelle un moment par une période à laquelle un nombre significatif d'auteurs éminents sont mus par ce qu'il appelle, avec autant de simplicité que de clarté, des problèmes communs qu'ils cherchent à résoudre en dialogue les uns avec les autres. En dialogue parce qu'ils sont animés par ces mêmes questions, ils sont préoccupés par ces mêmes problèmes, mais ils proposent des réponses différentes. Et c'est ça qui est intéressant et qu'il faut toujours avoir à l'esprit quand on est historien. C'est que la nouvelle théologie n'est pas une formule magique qui va, comme une chimie, pourrait-on dire, apporter une molécule unique qui va résoudre tous les problèmes de la théologie pour les musulmans. Étant entendu que je me situe comme une historienne, donc j'observe, mais je n'ai pas en aucun cas la prétention de proposer des remèdes, ni de quelconque formule. Mais Hanafi, donc, illustre par excellence les vertus de cette approche de Frédéric Worms. C'est-à-dire que il a été l'un des premiers en islam sunnite à constater l'historicité de la théologie, Tarikhiyat Ilm al-Kalam, c'est le titre d'un article qu'il a publié en 1990, d'abord dans une revue, et qu'il a ensuite intégré dans un très volumineux recueil de textes qu'il a lui-même composé. Il s'est interrogé sur la pertinence pour aujourd'hui des méthodes et du contenu de la théologie fondamentale et de sa dogmatique, mais il a conservé jusqu'au bout une vision apologétique de sa tradition.
Par anti-occidentalisme, disent certains, ou par critique de l'orientalisme, ou par volonté de défendre sa tradition religieuse des ce qu'il a percevé comme étant des attaques venant de quelques apologètes chrétiens cette fois-ci.
Tout ceci converge en réalité dans son propos. Il a été très marqué par son séjour en France, où il a préparé sa thèse, du milieu des années 1950 au milieu des années 1960. Et il a quitté l'Europe avec une vision défensive de sa propre tradition. Et donc une animosité vigoureuse contre ce qu'il appelle l'Occident. Et d'autre part, il a été très marqué par l'existentialisme dans la philosophie européenne et aussi par les philosophies révolutionnaires. Et ce qu'il a proposé, me semble-t-il, est original, puisqu'il a notamment en matière de théologie de l'histoire opéré une fusion entre une vision classique, cyclique du temps et une conception linéaire inspirée par une approche à la fois positiviste et révolutionnaire selon laquelle la révolution allait changer le monde. Et il a donc développé une théologie révolutionnaire de l'histoire en appelant expressément, en proclamant l'avènement d'une nouvelle hégémonie de l'islam dans cette vision donc à la fois linéaire et cyclique, d'après laquelle, après un long cycle d'hégémonie de ce qu'il appelle l'Occident, viendrait un nouveau cycle dans lequel le monde musulman serait de nouveau hégémon. Et c'est ce à quoi il appelle explicitement.
Bien, nous verrons tout cela, si vous voulez bien, et comme vous nous avez promis que vous allez revenir à l'émission prochaine. Nous arrivons au terme de notre émission. Merci infiniment, Constance Arminjon, de nous avoir édifiés par vos propos sur cette nouvelle théologie en islam, ce que beaucoup d'observateurs attendent, réclament, ne la connaissent pas. Mais en tout cas, vous avez fait un énorme travail d'historienne, d'enquêtrice, et nous vous en savons gré. Chers amis auditeurs, c'était Question d'Islam. Vous retrouverez cette émission, comme celle de la chaîne, sur son site, le site de France Culture, et sur l'application Radio France. Elle est à écouter et à podcaster, comme on dit. Vous retrouverez aussi les références des musiques et des livres sur le site franceculture.fr. L'attaché d'émission est Daphné Abkral. La prise de son était assurée aujourd'hui par Mathieu Toura. Et la réalisation est assurée par l'ami Franck Lilin.